je ne connaissais pas, c'est génial, la fête de l'humanité. J'ai envie de discuter avec un humain.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, du son, du sens, des luttes et des alternatives.
En direct et en public depuis la fête de l'humanité, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assisté d'Ismaël Alissat, avec à la technique aujourd'hui Tanguy Le Corneau, Thomas Robin, Ibrahim Seliem, Pascal Bresse et Laurent Maketsi.
Cette semaine, on va parler économie, théorie et pratique, et aussi du coup d'État au Brésil.
Résister simple.
Résister pour réveiller les consciences encore endormies.
Para que juntos, finquemos o pé.
Pour qu'ensemble nous puissions mettre le pied sur le terrain qui se trouve du bon côté de l'histoire, même si ce sol tremble et menace de nous engloutir à nouveau.
C'est fatigant de rester tout le temps debout.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, quel bruit qui court ?
Comme un bruit qui court, émission spéciale aujourd'hui en direct, en public et en musique depuis la fête de l'humanité. En musique avec André Mainviel et ses instruments improbables que vous entendez et qui nous accompagnera tout au long de cette première partie. On vous le disait, aujourd'hui on va parler économie, théorie d'abord autour du dernier hors-série du Monde diplomatique, un manuel d'économie critique pour tout comprendre des mécanismes qui nous gouvernent, du libre-échange à la crise financière. Analyse et décryptage, l'économie comme on ne vous l'a jamais expliqué, parce que l'économie c'est l'affaire de tous et qu'il ne faut surtout pas la laisser aux mains des seuls experts. Un outil indispensable donc pour tout revoir avec un œil neuf, au risque de décider qu'il faut tout changer. Et pour ceux qui en douteraient encore qu'il faut tout changer, on va passer de la théorie à la pratique avec un cas d'école, celui d'Ecopla, une entreprise tour à tour pillée par une banque anglaise, un fonds d'investissement américain et un actionnaire sino-australien jusqu'à la faillite. Et malgré un ministre de l'économie aux abonnés absents, malgré des décisions de justice hallucinantes, les salariés, eux, ont décidé de ne rien lâcher, de défier la fatalité et de s'unir plutôt que de subir pour reprendre leur entreprise en scope.
Et puis on partira au Brésil. Après la destitution il y a tout juste quelques jours, une dizaine de jours, de la présidente Dilma Rousseff, un coup d'état institutionnel, un virage à droite, le retour des conservateurs au pouvoir avec la bénédiction des nostalgiques de la dictature militaire. Voilà comment passer de la dictature militaire à la dictature économique. On verra ça en fin d'émission et on écoutera As Cantadeiras, les chanteuses du mouvement des centaires qui sont de passage à la fête de l'UMA et animeront une soirée de soutien à la démocratie brésilienne ce soir au stand France-Amérique Latine.
Vous l'aurez compris, comme un bruit qui court en direct et en public et en musique depuis la fête de l'humanité. Une heure pour se poser et réfléchir, une heure pour tout changer. C'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est avec André Mainviel.
Je suis le facteur d'accent, je passe mille ans d'accent du nord aux Pyrénées. Je capte l'altérité, je suis le facteur d'adoc, destin moi c'est Doyle Hanok. Je passe du fond à la forme et des contre-champs à la norme. Je suis le facteur des lieux, je fais les bords, les milieux, j'arpente le relief d'abord, la syntaxe par-dessus bord. Je suis le facteur d'abcès en matière d'identité, de la fait la poule sachée et que la poule s'en est crevée. Je suis le facteur d'abstrait, j'ai bon diplôme HEC, hôtes études communales, enfant de la balle pour que dalle. Je suis le facteur d'active, j'habite le temps des rives, j'habite le maître à flot, je scatte le môme et l'animal. Je suis le facteur d'accent, celui de l'incandescent. J'ai des rhizomes plein les pognes et des fantômes de gigogne. Je suis le facteur d'accent, l'anthropophonie des sangs. Dans mes chants, dans mes impros, de berbères les fagots. Si vous avez un accent, c'est que votre corps supporte mille mémoires qui s'emportent. Laissez-la comme lettre morte. Laissez-la comme lettre morte. Je suis le facteur d'accent.
André Mainvielle, merci André Mainvielle sur France Inter comme un bruit qui court depuis merci. La fête de l'UMA. Alors avant de parler de comment l'économie nous cuisine aux petits oignons avec nos invités, nous sommes allés faire un petit tour dans les allées où on croise de tout, même des robots.
Je me sens un peu seule parmi tous ces robots. Vous savez, je suis venue de Limoges pour participer à la première fête de l'humanité. Autant vous dire que je suis aux anges.
Bonjour. Vous voulez bien m'expliquer c'est quoi ce robot là qui est sur votre stand? C'est un petit robot qui fait quoi, 1m60?
Donc c'est un robot qu'on a conçu au sein de CyberDroid.
Ça ressemble vraiment à un truc de science-fiction.
Je trouverai bien quelques humains pour leur dire quelques mots.
Là ils recherchent des humains.
Et là en même temps que je vous dis ça, le robot se relève et se tourne vers nous.
Oui.
Hello, je m'appelle Aria, je suis heureuse de vous rencontrer.
Là, et elle bouge les mains là.
Elle est active. Si vous vous déplacez sur le côté. Comme elle vous détecte, elle va vous suivre du visage.
Bonjour, tu as de beaux yeux. N'hésitez pas à faire des selfies avec moi, j'adore cela.
Et il va servir à quoi ce robot alors?
Alors, nos robots en fait vont servir par exemple l'aide à la personne à domicile ou dans des centres de soins, par exemple dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite. Porter un plateau, ça va être jouer, ça va être accompagner une personne.
Donc ça peut être l'infirmière ou l'aide à la personne robotisée.
Voilà. Aujourd'hui, les robots commencent à venir vraiment dans tous les secteurs, notamment les secteurs de la santé.
Et ça ne va pas faire des emplois en moins, ça? Si on commence même les aides à la personne ou l'infirmière
Probablement, mais ça fera comme pour toute révolution. Certains emplois seront peut-être détruits, d'autres seront sûrement créés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple dans des usines aussi des robots et des travailleurs.
Ben, il y en a moins dans les usines.
Parce qu'il y a moins d'usines, surtout. C'est pas parce qu'il y a plus de robots, c'est surtout parce qu'il y a moins d'usines.
C'est génial, la fête de l'humanité. Je ne connaissais pas. Là, il fait chaud aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller vous hydrater. J'ai repéré quelques buvettes sympas dans le coin qui servent de bons mojitos. Quelqu'un peut m'apporter un verre?
Et voilà comment, dans un journal communiste, on peut se faire raconter en toute bonne foi des mythes capitalistes comme la théorie de la destruction d'emplois créatrice des richesses. Et raison de plus pour recevoir nos premiers invités. Hélène Richard, bonjour.
Bonjour.
Avec Renaud Lambert.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux journalistes au Monde Diplomatique et vous venez de coordonner un hors-série qui sort tout juste, Manuel d'économie critique à la portée de tous. Je dirais plutôt c'est un anti-manuel qui balaie tout un tas d'idées reçues, comme celle que véhiculait notre beau créateur d'emplois. Et vous rappelez que la science économique, aussi prestigieuse fut-elle, n'est qu'une science et qui a amené énormément d'erreurs de diagnostic.
Oui, le manuel a d'abord une vocation pédagogique. On a repris les programmes de première et de terminale et on a proposé un traitement mode diplomatique, monde diplomatique. Et il a aussi une vocation politique parce que nous, on doute de l'idée que l'économie soit une science. Au mois de mai dernier, une émission de France Inter, On n'arrête pas l'écho, recevait le prix Nobel de l'économie, Jean Tirole.
Fierté nationale.
Exactement, bien sûr. Et Chassagneux, un économiste, un journaliste d'Alter Echo, reprenait certaines des propositions qu'il formule dans son dernier livre. Augmentation de l'âge de la retraite, précisait, comme le MEDEF. Augmentation de la durée de travail, comme le MEDEF. Réduction des dépenses publiques, comme le MEDEF, et il interrogeait, bon, vous présentez comme un scientifique, or, toutes vos propositions épousent le programme du MEDEF. Et Tirole de répondre, moi, je ne dis que ce que dit la science économique. En d'autres termes, le MEDEF se contenterait de promouvoir quelque chose qui est démontré scientifiquement. Il nous semble qu'au contraire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les intérêts défendus par le MEDEF et tous les gens qui portent cette parole se sont grimés en science. Pourquoi? Eh bien, une citation d'Alexandre Dumas-Fils, à mon avis, nous éclaire. Alexandre Dumas-Fils expliquait « Il y a d'un côté ceux qui possèdent, ceux qui savent, et de l'autre côté, ceux qui ne possèdent pas et qui ne savent pas. » En d'autres termes, ce qui justifie dans des pays démocratiques la domination de certains, ce n'est plus la propriété, c'est le fait de pouvoir prétendre, disposer, représenter une science. Et cette pseudo-science, comme elle joue le rôle de fondation d'une domination qui existe aujourd'hui, eh bien nous avons décidé de nous y attaquer.
C'est ça. C'est que, d'autant que ce que vous dites aussi, Hélène, c'est à quel point ces théories qui se présentent comme des évidences, qui sont reprises depuis le MEDEF jusqu'au gouvernement au pouvoir, elles permettent aux mêmes énonciateurs de discours, aux mêmes spécialistes et aux mêmes experts de dire à peu près tout et son contraire à quelques années d'intervalle et garder toujours la même autorité.
Tout à fait, parce qu'il s'est passé comme quelque chose d'important ces dernières années, c'est la crise de 2007 dont nous subissons encore les conséquences et qui a fait émerger quelques doutes sur les vertus de cette science économique. Quelques esprits chagrins ont eu l'audace de reprocher aux économistes de ne pas l'avoir prévu, cette crise. Les économistes se trouvent dans une position un petit peu délicate, notamment nos amis, par exemple, Pierre Cahuc et André Zilberberg, respectivement économistes à Polytechnique et au SNRS, qui ont récemment publié un livre...
Tout justement sorti et qui fait un brûlot.
Un brûlot qui s'appelle « Le révisionnisme économique ». Voilà.
Et un terme qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que vous seriez, vous autres auteurs et coordinateurs de ce manuel d'économie critique, vous seriez des révisionnistes contre la doxa et contre la vérité historique de la science économique.
Tout à fait, parce que ces messieurs adorent les métaphores médicales. Et par exemple, si je les cite, ils disent par exemple que, bon certes, il y a eu la crise de 2007... Mais en fait, disent-ils, je les cite, la science économique n'est pas capable de prévoir un futur très complexe, reconnaissent-ils. De la même manière, la
C'est
médecine
dommage.
Est incapable, disent-ils, d'anticiper la prochaine grande épidémie. Et puis ils poursuivent en disant, mais vous arrêtez-vous de voir votre médecin parce qu'il ne peut pas vous prédire si vous aurez un cancer l'année prochaine. Hein ? Non, bien sûr. Sauf que quand le médecin... Si mon médecin m'a prescrit pendant 30 ans de fumer, effectivement, j'aurais quelques bonnes raisons de changer de praticien. Donc, effectivement, les économistes, aujourd'hui, ont une grande responsabilité dans l'état du système économique tel qu'on le connaît. Évidemment, on sait que ce dernier a été façonné par des politiques inspirées d'une théorie, la théorie néoclassique, pardon, qui a donné la base théorique aux politiques néolibérales, dont le succès n'a rien à voir avec la force magnifique des idées pures, mais avec un militantisme tout à fait assumé, parmi lesquels on connaît le plus connu, c'est Milton Friedman, qui avec ses petits camarades n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire pénétrer leurs idées dans les cercles dirigeants, qui aujourd'hui est le logiciel, je dirais presque à l'état incorporé, inconscient, digéré de nos élites. Donc ça vaut le coup encore de critiquer ce...
Et c'est ce logiciel et ce programme type qu'on nous sert à peu près depuis une trentaine d'années, Renaud Lambert, que vous détaillez et dont vous relevez toutes les idées reçues pour les démonter.
Voilà, c'est ça. Dans chaque chapitre du manuel, il y a une idée reçue que l'on s'emploie à détricoter. Je précise que si nos amis ont appelé leur livre « Négationnisme économique », c'est quand même qu'ils sentent leur base théorique assez fragile, puisque en somme, ce qu'ils nous disent, c'est que si vous ne croyez pas ce qu'on vous dit... Vous êtes antisémite, vous êtes négationniste. Bon, ça fait quand même des fondements scientifiques assez fragiles. Ce à quoi on s'emploie, c'est à fournir une boîte à outils à tous ceux qui, comme nous, estiment que les murs de la maison se lézardent, qu'il y a quand même un problème. Or, lorsque vous discutez dans des réunions publiques, vous discutez au troquet avec des gens, bien souvent, les outils dont vous disposez, les parpaings, le mortier, les briques, ont été façonnés par les néolibéraux. Donc il faut... repréparer des outils, expliquer que non, l'impôt n'est pas nécessairement mauvais, que non, la dette n'est pas une faute, qu'on peut s'en servir, recréer des outils pour repenser une société, des briques, du mortier pour se refabriquer une maison où il fera meilleur vivre que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Et pour tout ça, donc, vous êtes même parti des manuels d'économie de première et de terminale, parce que la bataille idéologique commence dès le système éducatif, c'est dès le plus jeune âge.
Tout à fait, on est reparti de ces programmes de première et terminale qui sont les programmes de sciences économiques et sociales, qui, à la base, promeut une vision de l'économique comme une des sciences sociales, avec l'histoire, avec la sociologie. Et cette conception de l'économie est en train d'être attaquée, notamment par le MEDEF qui veut transformer et qui emploie les grands moyens, qui veut transformer cet enseignement en un outil de promotion de l'esprit d'entreprise de la connaissance des mécanismes de marché, point barre. Donc nous, en quelque sorte, quand on a revisité ces programmes, c'est presque une volonté de retour aux sources, puisque ce programme, dans son esprit, est attaqué de notre point de vue. Et c'est pour ça qu'on donne une place importante à l'histoire économique, qui est peut-être ce qui nous distingue le plus de nos adversaires prétendent que l'économie est une science dure, un peu comme la médecine.
C'est-à-dire avec des équations.
Des équations, des mathématiques, des chiffres et des tableaux. Il ne faut pas être anti-chiffres, anti-tableaux, anti-statistiques pour être anti-statistiques, ce n'est pas le problème.
Il ne faut pas être anti-économie.
Il ne faut pas forcément être anti-économie. Je pense qu'il faut s'armer, dont les statistiques. La statistique, c'est aussi utilisé par la sociologie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire l'économie, ce sont des lois naturelles dont certains experts se font les connaisseurs et qui sont aussi immuables que la loi de la gravité. Or non, l'économie, c'est le produit d'une histoire sociale et intellectuelle, une histoire dont les économistes eux-mêmes ont participé et ont influencé leurs objets. Donc c'est de ça dont il est question.
Si on revient, c'est derrière le vernis scientifique, il y a une portée idéologique. C'est ce que vous démontrez dans ce manuel d'économie critique, et que les chiffres, en gros, ils sont aussi sujets à interprétation. On peut leur faire dire ce qu'on veut.
Exactement. Bon, mais l'un des projets qui est le nôtre n'est vraiment pas, comme le disait Guif tout à l'heure, d'inviter les gens à tourner le dos à l'économie. À l'économisme, oui. À l'idée selon laquelle la société doit rentrer dans des lois qui nous seraient exposées par Dominique Seux sur France Inter le matin, par exemple.
Nous n'y croyons pas.
Néanmoins, tout à l'heure, il sera question du Brésil. Il nous semble qu'il est important de porter son regard sur le Brésil. D'ailleurs, nous le faisons dans le manuel pour comprendre ce qui peut-être n'a pas été réussi par les forces progressistes dans leur tentative de transformer les modes de fonctionnement du Brésil, dans leur tentative, d'offrir un meilleur cadre de vie à tous les gens qui avaient été abandonnés par le néolibéralisme. Donc, l'économie s'applique y compris aux projets progressistes, mais pas dans les termes de Jean Tirole ou de votre collègue, donc Dominique Seux.
Voilà. Donc, beaucoup de lectures. Merci Renaud Lambert. Merci Hélène Richard, manuel d'économie critique, le nouveau hors-série du monde diplomatique à retrouver en kiosque.
Donc mon langage à moi, c'est bien de constater ce que font Valls et ce que font les autres. Tous les jours, je les combats. Tous les jours, je dis que ce sont des traîtres. L'espoir, c'est d'unir le salariat, les 93% d'actifs qui sont salariés, jusqu'au plus reculé d'entre eux, jusqu'à celui qui se pose le plus de questions, jusqu'à celui qui croit qu'il y a la crise, alors que la crise, c'est tout bon pour uniquement les riches. Il faut sortir la crise de la tête des gens. Comment on pourrait s'en sortir? Et quel est le moyen pour y arriver?
In the Sedgeman of Toulouse and its moose, Farion dan Mochins dig, Zant Machu Mare Hosternetz. Is kunza mare master song at me, my gavon der luns doi. Me, don't time I stand a breath alone, feeling a sport body news in a song, finish the lead back song, sing me, feelish the back, chim a cham, cham a chim, me, feelish the back, cham a chim, chim a cham, Lister Bush, dance and dance phones. Bovenu to Babel, Bovenu to Babel, Bovenu to Babel, boom, 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 Bovenu to Babel, Bovenu to Babel, Bovenu to Babel, boom, 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 Fari con la Madonna mi vuole di. Andili blitz, andili blitz. Sorry, di, e, di, e, di, e, di, e, o, saro, si, saro, tristanda da velo, io. Per fanta di e, dame mi tongania, io, sanoro, la, ma, caigle, aire. Tui, dan zulit exilej, dan maxtan exastiu, dan uris pandeleon. Bovelo de Babel, bovelo de Babel, bovelo de Babel, pom 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 pom. Bovelo de Babel, bovelo de Babel, bovelo de Babel. Bohey, you, vivid in stan, in you, in interbani many laws. In interbani mani mix young, in interbani mani mix young, con dei maidun, ostrovarun, arazintun, un mix fuzzi, se vendi, bae, un bau, e un taure di saud, un beri non un com, un ben vidi, un bo, 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 un bo,
André Mainvielle en direct de la fête de l'humanité dans Comme un briquet court sur France Inter.
Et maintenant, on passe de la théorie à la pratique avec l'exemple d'Éclopée. Écoplat, vous savez, les petites barquettes en alu autour des plats industriels ou des pâtisseries pour les gamins. Et bien, c'est ça que fabriquait Écoplat. Et l'histoire de cette entreprise, c'est un cas d'école. C'est une histoire qui, comme tant d'autres, raconte tout sur la France d'aujourd'hui.
Il y a quelques mois, Écoplat était encore le leader français de la fabrication de barquettes en aluminium.
Cette usine était la seule en France à en produire.
L'usine emploie 77 personnes, mais la plupart sont restées chez elles, faute d'activité.
En apparence, l'usine paraît abandonnée. Les machines sont à l'arrêt.
Mais une poignée de salariés compte bien les faire repartir.
Mais l'actualité de ce midi, c'est tout d'abord l'attente des 77 salariés d'Écoplat à Saint-Vincent-de-Mercluse.
Les employés souhaitent se réapproprier leur outil de travail. Il faut savoir qu'Écoplat est leader dans son secteur en Europe.
Tout l'enjeu, c'est de savoir si Écoplat sera placé en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est aussi l'occasion de montrer qu'ils restent mobilisés pour reprendre leur entreprise en scope, ce qui serait pour eux la meilleure manière d'éviter que leur entreprise ne tombe entre les mains d'un grand groupe.
Tous les espoirs se sont envolés pour les salariés d'Écoplat à Saint-Vincent-de-Mercluse.
En première instance, le tribunal de commerce a tranché en faveur d'un chèque d'1,5 million d'euros promis par le groupe italien Cookie.
Il prévoit juste de racheter les machines et ne propose aucune reprise des salariés sur le site.
Donc ils préfèrent que ça soit Cookie qui...
Incompréhension.
Le député de l'Isère, Pierre Ribot, a assuré qu'il allait interpeller Emmanuel Macron, le ministre de l'économie.
Cela pourrait bien peser dans la balance.
Voilà en gros, en résumé, ce qui s'est passé. Alors pour parler de cette histoire et de cette lutte, on est avec Christophe Chevalier. Bonjour. Vous êtes délégué CGT, ex-salarié d'Écoplat. Et on est avec Karine Salin, François Ruffin de Fakir.
Bonjour.
Qui publie un long reportage sur cette histoire. Et avec la sénatrice d'Isère, Annie David.
Bonjour.
Bonjour. Bon alors vous attendez toujours qu'Emmanuel Macron réagisse.
Exactement, ça fait 2 ans qu'on interpelle pour qu'ils viennent aider l'entreprise Écoplat et surtout notre projet Scope qui est viable et voilà, aujourd'hui...
C'est-à-dire un projet de coopérative géré par les ouvriers.
Un projet coopératif géré par des ouvriers, c'est ce qu'on sait faire, on sait travailler, on sait faire tourner cette entreprise. Moi, ça fait 16 ans que je le fais, il y en a qui font partie du projet, ça fait 38 ans qui font ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre combat, c'est notre lutte et on attaque le 7e mois.
Bon alors du coup, n'ayant pas de réaction, vous avez interpellé Emmanuel Macron dimanche dernier sur le plateau de questions politiques avec Nicolas Demorand.
France Inter.
Allez, retour au standard. Bonjour Christophe, vous nous appelez d'Isère, vous avez la parole. Emmanuel Macron vous écoute.
Bonjour à tous. Alors, je suis le représentant d'un collectif Écoplascope. On est l'unique fabricant de barquettes en alu en France. On est basé en Isère, donc à Saint-Vincent-de-Mercuse. Cette entreprise a été liquidée, bouffée par des fonds de pension américains, pillée par des banques. Et vous, monsieur Macron, vous n'avez pas bougé un orteil. Les salariés, la sénatrice Annie David, le député Pierre Ribot vous ont interpellé et il manquait juste un signe de votre part pour sauver Ecopla et vous n'avez rien fait. Voilà, vous, aujourd'hui vous parlez de campagne au porte-à-porte avec vos randonneurs et vous, votre porte a été fermée pour les salariés d'Ecopla. Monsieur Macron, vous avez fait crever cette entreprise, vous avez mis en danger notre famille, notre vie sociale et vous n'avez même pas fait la moitié de votre travail. Voilà, monsieur Macron.
Merci Christophe pour cette rude question à laquelle Emmanuel Macron répond.
Bonjour monsieur. Je connais en effet la situation que vous évoquez et j'ai été saisi. L'État peut faire des choses. Mais en France, vous avez aussi une liberté d'entreprendre et un droit de propriété. Et vous avez parfois des actionnaires cyniques, c'est vrai. Et il y a des décisions de justice. Donc oui, il y a des limites à l'action publique. Oui, je n'ai jamais menti pour ma part aux gens en leur promettant monts et merveilles, en disant qu'on allait pouvoir tout arrêter. Parce qu'il y a des actionnaires qui, parfois, n'ont plus de projet pour l'entreprise, veulent juste sa fin, avec un cynisme qui est réel et qu'on ne peut pas bloquer. Mais commencer à changer la politique, c'est arrêter d'avoir un comportement maternant et de mentir aux gens. Aujourd'hui, c'est faux de dire que l'État est en situation de régler tous les problèmes et toutes les difficultés.
Alors voilà la réponse d'Emmanuel Macron à Christophe Chevalier. Hein. Vous l'avez interpellé pendant l'émission sur France Inter dimanche dernier. Et on est avec François Ruffin, justement, qui voulait aussi amener sa contribution à cette question posée à l'antenne.
Non mais
François,
ouais. Moi, je suis juste sur le retour des vacances. J'étais en Ardèche, je suis passé par l'entreprise Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercus dans l'Isère. J'ai vu les gars qui gardaient leurs machines pour pas que les repreneurs, les non-repreneurs en vérité italiens... Bon, donc je me retrouve dans une situation que malheureusement, quand on était à l'émission là-bas, si je suis, on a pu constater chacun de nous-mêmes des dizaines de fois, c'est-à-dire un fonds d'investissement anglo-saxon qui pille la boîte. Ensuite, ça a été une banque, la banque Barclays, un actionnaire sino-australien. Et par contre, il y a en toile de fond, ce que je trouve intéressant, le ministère de l'économie. Que fait-il, que ne fait-il pas? Il reçoit le patron, l'actionnaire sino-australien, il en sort enthousiasmé, il lui déroule le tapis rouge, il lui promet des papiers pour pouvoir s'installer lui et sa famille en France, et à aucun moment il ne reçoit les salariés pour les entendre sur les difficultés que rencontre leur entreprise. Et les courriers adressés par la sénatrice Annie David, qui est à ma gauche, par le député Pierre Ribot, qui est pas là, député socialiste, qui est pas là, y compris par Laurent Wauquiez, par les salariés, un certain nombre d'interpellations, qui ne reçoivent même pas une lettre type. Normalement, on reçoit une lettre type du ministère. Nous avons bien reçu votre machin. Alors là, quand Macron vient dire à l'antenne, si, on a bossé sur le dossier, on a bien regardé le truc. Vous savez, peut-être que c'est un garçon qui aime la discrétion. Hein, c'est pas, il n'est pas de ce genre de personne qui parade à la une des magazines, de l'Express, de Gala, de tout ça. Donc ce garçon aime la discrétion. Donc quand il travaille, surtout, il ne le fait pas savoir. Il ne le fait pas savoir aux salariés eux-mêmes. Il respecte à fond le secret des affaires. Et donc quand il bosse sur un dossier comme celui-là, il n'en dit rien à personne. Non, il faut dire la vérité, c'est que Macron, c'est pour ça que ce dossier m'a intéressé, c'est parce que pour moi, il transparaît l'idéologie Macron, à savoir que le patron, on l'écoute, les salariés, ils ne comptent pour rien. Alors que bien souvent, dans les entreprises, le meilleur ami de l'entreprise, ce sont les salariés, parce qu'eux, ils tiennent à l'outil de travail. Mais là, on ne l'écoute pas. Aussi, il y a tout un rapport réel. Quand on écoute la totalité de l'émission, là, de dimanche, de Macron au dimanche, il est l'homme du réel, de la gauche du réel. Vous savez, quand on veut ne pas travailler le dimanche, c'est qu'on n'appartient pas à la gauche du réel, tandis que lui comprend le pays, et ainsi de suite. Ben là, il avait l'occasion d'aller rencontrer le réel en direct à Saint-Vincent-de-Mercus, et il n'a pas fait un seul pas en cette direction. Et par ailleurs, ça, pour moi, ça transcrit une idéologie Macron qui est celle de, il l'a dit, hein, protéger les emplois et les entreprises existants serait une grossière erreur. Ben voilà, pourquoi il va même pas regarder si cette entreprise peut être sauvée? Parce que pour lui ça appartient à l'industrie, ça appartient à un vieux truc qui est le truc du passé et il doit plus y avoir que du numérique et de la French Tech. Ben non, c'est pas vrai. Alors la spécificité de cette entreprise en l'occurrence, c'est qu'elle est complètement viable. On n'est pas sur des marchés qui n'existent plus. Là, Christophe, qu'on voit là avec son t-shirt, notre ami c'est l'emploi façon syndicaliste à la fête de l'UMA, il a revu, revêtu le costume comme s'il allait à un mariage. Karine, pareil, elle a mis le tailleur et ils sont allés eux-mêmes voir les clients pour voir si les clients ils continueraient de travailler avec Ecopla. Les clients sont prêts à travailler. Tout ce qu'il a manqué, c'est un coup de pouce politique et en l'occurrence, la porte du ministère de l'économie, elle était fermée à toute demande des salariés pendant 2 ans. Quoi, voilà.
Et les luttes sont longues, hein, dans ces genres de cas d'école, hein. Le cas d'école des Fralib aussi, hein. Il y a eu plus de 300 jours de lutte. Alors bon, on vous souhaite de continuer. Peut-être Karine, vous voulez réagir?
Oui, c'est le 7e mois de lutte. On est présent tous les jours à l'usine. On surveille notre outil de travail tous les jours avec le collectif. On est une bonne vingtaine de salariés, ouvriers prêts à prendre la totalité de nos indemnités de salaire pour les mettre dans le capital et se retrouver demain à la tête d'une coopérative qui va marcher. On en est convaincu, les clients sont attentifs à notre projet. C'est un des aspects incontournables de notre projet. Il y a l'Union régionale des SCOP Rhône-Alpes qui nous accompagne, qui met des moyens énormes, humains et financiers à notre disposition. On est aidé et soutenu par les élus, les médias. Voilà, tout le monde est là pour nous. Il manque plus qu'un petit geste, quelque chose de la part de Macron. Voilà. Est-ce que une personne au tribunal de commerce de Grenoble peut choisir et de l'avenir de 77 salariés ou de 25 salariés qui sont prêts à créer des emplois? Ben voilà.
Parce qu'on en est arrivé là, donc, suite à une décision du tribunal de commerce qui a décidé de laisser l'entreprise à son principal concurrent, Cookie, une entreprise
voilà.
Italienne.
Le tribunal de commerce, je dirais, s'abrite derrière la loi. Je dois rembourser les dettes sociales. Ben voilà, messieurs les ministres, aidez-nous, payez les dettes sociales. Et puis, on fait redémarrer l'unique entreprise de barquettes aluminium en France. On garde un acteur de la filière aluminium en France. Et on permet à des salariés de travailler, à des ouvriers qui veulent reprendre leur entreprise, de travailler et de permettre aux emplois induits d'exister. Voilà, il y a des fournisseurs qui nous attendent. Il y a des clients qui nous attendent. Voilà, c'est quand même assez incompréhensible qu'on puisse pas permettre à des personnes de vouloir créer de l'emploi. Voilà, on veut créer de l'emploi, on nous envoie vers qui? Vers Pôle emploi.
Annie David, vous êtes sénatrice de l'Isère. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous dites justement quand notre ex-ministre de l'économie, Monsieur Macron, dit que les politiques ne peuvent pas tout faire pour ce qui est des affaires privées? Et là, pour le coup, c'est votre, ça dépend de vous aussi. Vous vous êtes mobilisé depuis le début pour soutenir cette reprise de l'entreprise par les salariés.
On s'est mobilisé à quelques-uns aux côtés des salariés. Maintenant, les choses sont dans les mains du gouvernement. Nous, en tant que parlementaires, on a interpellé. Le gouvernement, aujourd'hui, peut. Il n'y a plus Macron, mais il a été remplacé. Nul n'est irremplaçable. Donc Macron a été remplacé. Et aujourd'hui, au gouvernement, si le ministère de l'économie et celui du budget, donc le ministre Sapin, le décide, il peut proposer un effacement de la dette. Avec un effacement de la dette, ça mettrait un...
La dette, ça fait 1 million d'euros.
Voilà, 1 million d'euros.
Ce qui est dérisoire.
Qu'est-ce que c'est par rapport à 77 personnes au chômage qui sont payées par Pôle emploi? Qu'est-ce que c'est par rapport aux primes de licenciement? Bon, elles ont été versées, heureusement pour les salariés, mais qu'est-ce que c'est par rapport à 77 salariés au chômage, par rapport aux emplois induits, par rapport à l'économie industrielle dans la vallée du Grésivaudan, qui est une vallée complètement sinistrée au niveau de l'emploi? Ce sont des emplois qui supprimés, qui se rajoutent à d'autres emplois supprimés. Donc aujourd'hui, le gouvernement peut, et après il peut, avec cet effacement de la dette, il peut y avoir dans la constitution de la SCOP un événement nouveau, et à ce moment-là, le tribunal peut déjuger le jugement précédent. Parce que là, si le dossier reste le même, je ne sais pas comment le juge pourrait dire que le juge précédent a mal jugé. C'est toujours un peu délicat pour un juge de déjuger un collègue. Voilà, il faut le reconnaître. Donc moi, je pense que cet effacement de la dette que nous avons demandé au ministère, que les salariés vont demander de vive voix demain matin au ministère, eh bien, je pense que... Pas demain matin, pardon, dimanche, on est que samedi. Donc vont demander lundi matin. Eh bien, je pense que c'est ça qui pourrait être l'événement déclencheur de la modification de ce jugement. Et moi, j'y crois un peu, sincèrement. J'y crois un peu dans la période. Parce qu'en plus de ça, cette entreprise, elle a tous les atouts nécessaires pour pouvoir fonctionner. Karine, Christophe l'ont dit, je n'y reviens pas, elle a tous les atouts nécessaires pour fonctionner et pour maintenir de l'activité économique dans notre secteur géographique. Comme dans beaucoup d'autres endroits sinistrés, malheureusement, on maintient la high-tech. François Ruffin qui le disait, il y a effectivement des belles entreprises ultra-modernes dans notre secteur, mais tout le monde ne peut pas travailler dans la high-tech. Et de toute façon, on a besoin aussi d'industrie traditionnels. Des plats en aluminium, on en aura encore besoin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas les faire ici, on doit aller les faire fabriquer ailleurs? Ben non, moi, je pense qu'on a la capacité de les faire fabriquer en France, comme plein d'autres produits. Il faut maintenir l'industrie traditionnelle dans notre territoire pour maintenir l'emploi.
Alors, Christophe Chevalier, c'est quoi maintenant les prochaines actions alors pour sauver Ecopla, pour créer une coopérative et pour que l'activité continue en Isère, chez vous?
Le rendez-vous que vous donnez.
Ouais, la prochaine action, donc, c'est lundi. Lundi, donc, il y a quatre autres salariés du collectif d'Ecoplascope qui montent par les cars Macron et qui nous rejoignent à Bercy lundi matin à 9h. On paye le petit déjeuner dans nos barquettes en alu et on espère être reçus par l'économie solidaire et sociale, le secrétaire de l'industrie. Voilà. Et puis ensuite, l'après-midi, on ira en courant du côté de la tour de Montparnasse où il y a le QG de Monsieur Macron en marche. Voilà. C'est les deux actions qu'on va mener juste après la fête.
Puisqu'il n'est pas venu à vous, c'est vous qui venez à lui.
C'est exactement ça. On ne fait pas la moitié du boulot, on le fait en totalité. Et voilà.
Bon, on espère que plein de monde sera là pour vous rejoindre et pour vous soutenir.
Voilà, c'est ça. On appelle aussi à tout le monde qui vienne nous soutenir ce jour-là et qu'on soit nombreux et que tout se passe bien.
Nous, on y sera en tout cas.
Merci beaucoup, Christophe Chevalier, Karine Salin,
merci.
François Ruffin, Annie David. Monsieur Macron, pendant qu'on en parle.
Comme un bruit qui court.
Merci Emmanuel Macron d'être avec nous.
Cher Emmanuel, cher Pierre Gattaz, merci pour votre volonté affichée à adapter notre droit du travail. Merci, cher Emmanuel.
Ma responsabilité comme ministre de l'économie, c'est de lever les blocages.
Votre responsabilité, c'est de vous saisir de ce qu'il y a sur la table.
Emmanuel Macron.
Je ne suis pas obsédé aujourd'hui par la présidentielle de 2017.
Vous pouvez compter sur le MEDEF.
Réduire les charges et diminuer le coût du travail, c'est fait, c'est en cours. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Cher Emmanuel, cher Pierre Gattaz, merci.
Oui, c'est une loi de gauche. Pourquoi? Parce qu'elle permet justement de donner plus de droits, plus de liberté. Et la liberté, vous savez quoi? C'est une valeur de gauche.
Je ne suis pas socialiste.
De gauche. Une loi de progrès qui donne donc plus d'égalité et plus de liberté.
Comme un bruit qui court.
Et la liberté, vous savez quoi? C'est une valeur de gauche.
Comme un bruit qui court en direct de la fête de l'UMA. André Mainviel est avec nous pour nous accompagner là sur une transition vers le Brésil. On va parler de la dictature brésilienne, enfin oui, de l'histoire brésilienne et de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais d'abord, André, c'est à toi et tu voulais nous faire une version brésilienne d'une de tes chansons, de ton nouveau disque qui sort d'ailleurs.
Ça ressemble. Les chansons de Marc Perrone sont toutes brésiliennes. Alors, la composition de Marc Perrone. On fait toujours la samba gasconne. Non, là c'est un truc juste pour parler des. Parce que un jour j'ai lu un truc sur Darwin et Darwin à la fin de sa vie s'intéressait beaucoup aux vers de terre, à tout ce qui passait dessous, et il disait que 80% de la masse animale sur terre est sous terre en fait. Donc pour les choses qu'on voit pas, levez vos vers, etc. Donc ça s'appelle le Verbier sur une composition de Perrone. Et tout à l'heure c'était le beau vélo de Babel en hommage à Maurice de Bayonne, Maurice Ravel. Hein. Voilà, donc Verbier. Vers de belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit ver solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Pom, 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 Vers belle vertu, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit vers solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Vers de belle vertu, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solitaires. Vers de belle vertu, histoire de nous fertiliser la terre. Un ver moulu, deux vermis, aux trois vertigaux, dix vers de vin, deux vers de lui, trois vers d'elle, un ver luisant de nuit, un ver hiveri sentinelle. Bon, des vermis grands, des vermis celles, des vers classiques, des lombriques, les pigés, l'endogé, l'anésique, des vers à pied libre de circuler comme l'air. Vers en veux-tu, vers en voilà, boum, boum, vers en veux-tu, vers en voilà, boum, 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 vers en veux-tu, vers en voilà, boum, 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 levez vos verres, au verre en vie, boum, 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 vers en veux-tu, vers en voilà, boum, 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 vertu. Il traverse l'hiver en terre, en petit vers solitaire. Oui, il avait le vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Vert de belle vertu, félumus des traces de vie des petits vers solitaires. Vert de belle vertu, histoire de nous faire du lys et la terre. Un verre moulu, deux verres missaux, trois vertigo, dix verres de vin, deux verres de lui, trois verres d'elle, un verre luisant de nuit, un verre hiver et sentinelle. Bon, des verres migrants, des verres micelles, des verres classiques, des lombriques, les pigés, l'endogés, l'anessique, des verres à pied libre de circuler comme l'air. Vert en veux-tu, vert en voilà. Bon, 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 bon. Vert en veux-tu, vert en voilà. Bon, 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 bon. Vert en veux-tu, vert en voilà. Bon, 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 bon. Vivre sans bas, vert en voilà. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Si vos vers sont versatiles, au vermi fugue, c'est que la vie s'est fait virer. Car si les vers n'y sont pas, il y a verticine en bas. Laissons la sa part au vert, les cultiver les verbiers, et la terre saura faire qu'est des vertus salutaires de nous, des locataires, terre en vert.
Merci.
Merci André. Merci, André Mainviel, donc le merci. Verbier hein, sur ton album qui sort ces jours-ci.
C'est ça, le 23 septembre.
Bon, alors il faut dire, faut préciser que toute la musique se fait avec deux sacs en plastique.
C'est ça.
Bon, faudrait que tu penses à faire avec des sacs en papier peut-être. Hein, ouais, ou avec comme, des barquettes et copla peut-être.
Non, mais je suis là, la piste d'Alain Peters, le Réunionnais, qui faisait ses kayams avec les sacs en plastique.
Merci André. André Mainviel qui était avec nous à la fête de l'Humain en direct, en public, à la Courneuve. Alors maintenant, on va s'intéresser au Brésil, à ce qui s'est passé ces derniers mois au Brésil, à ce qui se passe en ce moment, c'est tout frais. Ça fait à peine 10 jours. Donc avec Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et journaliste du site Mémoire des Luttes, hein, qu'on aime bien, medelu.org. Maud Chirio, historienne, spécialiste du Brésil contemporain et notamment de la dictature. Et Glauber Ceresino, sociologue, membre de l'association et du média Autre Brésil, ici à Paris. Merci d'être là avec nous.
Merci.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se joue? Ça fait depuis le mois d'avril, il y a eu tout un processus de destitution qui a abouti là, donc tout début, le 1er septembre, je crois. Et qu'est-ce qui est en train de se jouer au Brésil? Justement, on parlait d'économie, c'est un modèle économique qui est en train de prendre la main. Maud, peut-être, pour commencer?
Alors, c'est d'abord un coup d'État, il faut le rappeler, c'est-à-dire que la destitution d'Dilma Rousseff n'est pas constitutionnelle. Et ce coup d'État, qui a eu les apparences de la légitimité démocratique, a permis à une droite, en fait, très radicale, très conservatrice du point de vue de la société et très, très libérale du point de vue de l'économie, à parvenir au pouvoir et à avoir les pleins pouvoirs que les urnes ne lui avaient pas donné, en fait, puisque les gens obstinément continuaient à voter pour le PT depuis 15 ans, votaient à droite à d'autres élections, mais votaient pour le Parti des Travailleurs, donc un centre-gauche, pas très très radicalement à gauche, hein, mais pour la présidence. Et donc, pour obtenir finalement la présidence, ces secteurs très à droite, très religieux aussi, ont fini par trouver le moyen de placer donc Michel Temer, qui n'est pas du tout quelqu'un de centre, hein, qui est quelqu'un de très à droite, à
la présidence de la République. Qui était déjà vice-président auparavant, c'est-à-dire c'est le coup dans le dos.
C'est ça, c'est le traître, c'est l'incarnation du traître sur la scène politique brésilienne. C'est un peu compliqué parce que c'était l'allié de Dilma, hein, mais il a évolué à droite et le système politique brésilien oblige à faire des alliances un peu contre nature. Mais maintenant, ils ont les mains libres, hein, et ils se sont alliés avec la droite et l'extrême droite et ils vont agir à droite et à l'extrême droite.
Alors c'est vraiment des nouvelles pratiques, hein, qu'on voit en Amérique latine ces derniers temps. C'est vraiment des putschs institutionnels. On a vu ça en Honduras il y a quelques temps. C'est peut-être ce qui est en train de se passer aussi au Venezuela. Christophe Ventura.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe au Brésil dans la forme brésilienne, qui est une vaste farce cynique, politique, ce coup parlementaire qui est organisé par une ligue, en réalité, qui détient tout le jeu parlementaire et qui a eu l'objectif, malheureusement atteint, de décapiter littéralement la gauche au Brésil et derrière elle toute l'Amérique latine. En fait, ce qui s'est passé au Brésil, il y a eu des cahiers de brouillon, absolument, et il y en a eu deux essentiellement jusqu'à présent, c'est le Honduras en 2009 et aussi le Paraguay en 2012, qui avaient déjà été des alertes en Amérique latine, alors que justement, des acquis de la vague progressiste dans toutes ses contradictions, il y avait quand même parmi les acquis le fait qu'elle avait amené dans cette région une stabilité démocratique inconnue depuis des décennies. Il faut se rappeler qu'on est dans une région dont la restauration démocratique ne date entre guillemets que du milieu des années 80 voire années 90 pour certains pays.
Gober Cesarino, pardon. Vous, vous êtes un observateur aussi de tout le processus du PT en, au Brésil. Alors, comment vous avez, comment vous comprenez, vous, parce qu'il y a eu aussi un désaveu quelque part populaire hein, du PT. Il y a eu tout un quelque
Parti part des travailleurs.
Un délabrement de la politique sociale.
Ouais, exactement. De mon point de vue, c'est un peu la compréhension que j'ai faite de ces processus, c'est que les pactes sociaux établis par Lula en 2003. Il a complètement éclaté. Il a commencé à éclater déjà à partir de 2011-2012 avec des grèves généralisées dans les pays, surtout des grèves menées par des travailleurs précaires. Donc ces travailleurs qui ont, ont eu accès à la consommation pendant les gouvernements Lula et en raison de la crise économique, c'est-à-dire en raison de la chute des matières premières, que c'était les premiers produits, la première ressource économique brésilienne dans les marchés internationaux, la crise s'approfondit et du coup cette ascension sociale permis pendant les années Lula via l'inclusion, via la consommation, via l'accès au crédit, a été complètement bloquée. Ces populations qui ont commencé à avoir de l'espoir d'une vraie ascension sociale, ont vu cette ascension complètement bloquée. Et là, c'était les champs de cygne, en quelque sorte, pour ces pactes sociaux menés par Lula. Moi, j'aime bien toujours de remarquer que ce coup d'État, il a une particularité qu'il est institutionnel, parlementaire, avec la présence massive de médias très conservatrices au Brésil, les 8 familles qui contrôlent, en gros, les médias brésiliennes. Ça, c'est très important de remarquer. Cependant, définir ce coup d'État comme seulement parlementaire, juridico-médiatique, nous fait oublier, en fait, que des forces qui sont derrière, par exemple, les organisations patronales, qui jusqu'aux années 2011-2012 étaient plus ou moins partenaires du gouvernement du PT, qui ont abandonné les bateaux, et sont eux qui ont mené, qui ont pratiquement financé ces processus des coups d'État. Donc, pour moi, c'est clair. C'était un pacte social instauré par Lula qui comptait sur les hauts de la pyramide sociale brésilienne pour augmenter pour améliorer les conditions de vie de ceux qui sont en bas, qui n'a pas pu s'éteindre après la crise de 2008 qui a touché le Brésil 2010-2011. Ces pactes sociaux s'éclatent et là, les autres sphères du pouvoir économique et politique abandonnent les bateaux. Donc c'est pas par hasard non plus que c'est son vice-président de Dilma. Donc c'était quelqu'un qui a été élu avec elle dans les mêmes, sur les mêmes tickets. Donc qui décide au début du deuxième mandat de Dilma de jouer à la Brutus, quoi, de la tuer par derrière comme ça. Donc je pense que ça c'est important de remarquer.
Jouer à la Brutus et notamment si on se repasse dans l'histoire quand même du Brésil. Donc on peut pas quand même ne pas s'inquiéter du fait que les nostalgiques de la dictature approuvent et applaudissent ce coup d'État, hein, ce coup d'État institutionnel. On va écouter justement une partie du discours de Dilma Rousseff qu'elle a tenu devant le Sénat. C'était le 29 août, je crois, et juste la veille de sa destitution, hein, son plaidoyer, son dernier plaidoyer.
Até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. Entre os meus defeitos não está a deslealdade e a covardia.
Comme tout le monde, j'ai des défauts et je fais des erreurs.
La trahison et la lâcheté ne font pas partie de mes défauts. Os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado.
Je respecte les engagements que je prends et je ne trahis ni les princípes que je défends ni ceux qui luttent à mes côtés.
As marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras.
Dans la lutte contre la dictature, j'ai reçu dans mon corps les marques de la torture. J'ai supporté pendant des années la souffrance de la prison. J'ai vu des camarades violentés et même assassinés. À cette époque-là, j'étais très jeune. J'attendais beaucoup de la vie. J'avais peur de la mort, des séquelles de la torture sur mon corps et dans mon âme. Mais je n'ai pas cédé. J'ai résisté à la tempête de terreur qui commençait à me submerger.
Começava a me engolir na escuridão dos tempos amargos em que o país vivia.
Dans l'obscurité des années amères que traversait le pays.
Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros,
je n'ai pas retourné ma veste malgré le poids de l'injustice qui pesait sur mes épaules.
Dediquei todos esses anos da minha vida à lutte pour une société sans odios et intolérance.
J'ai continué la lutte pour la démocratie. J'ai consacré toutes ces années de ma vie à lutter pour une société sans haine ni intolérance. J'ai lutté pour une société libérée des préjugés et des discriminations. J'ai lutté pour une société sans misère ni exclue. J'ai lutté pour un Brésil souverain, plus égalitaire et où régnerait la justice. J'en suis fier et que lutte
celui qui celle qui croit. L'autre.
Maud Chirio, qu'est-ce que ça vous fait penser alors ces paroles, ces dernières paroles en tant qu'encore possible présidente hein, de Dilma Rousseff.
Je pense que ce n'est pas du tout excessif d'évoquer la dictature et le fait de la répétition du même sort, c'est-à-dire d'être jugé deux fois injustement, parce que même si c'est un coup institutionnel parlementaire, il y a vraiment une revanche pour une partie des élites brésiliennes du fait que la fin de la dictature, finalement, on dit beaucoup que la gauche qui a été vaincue par les armes, elle aurait ensuite vaincu la bataille de la mémoire, et pour beaucoup de gens qui sont nostalgiques de la dictature, des civils et des militaires, il faut voir que la classe politique civile actuellement, c'est des hommes qui ont 70 ans et donc qui étaient déjà actifs politiquement sous la dictature. Ils l'ont vécu, ils l'ont appuyé pour beaucoup. Ces hommes-là considèrent que la mémoire de la dictature qui a été construite, qui est une mémoire négative, il faut la repenser. Très récemment, deux jours après l'investiture de Michel Temer, la commission d'amnistie qui gère les indemnisations des victimes a été intégralement remplacée et on y a fait entrer notamment des militaires. Qui étaient des militaires qui ont été actifs dans la lutte contre la résistance pendant la dictature. Donc il y a cette dimension de revanche mémorielle et il y a les militaires qui sont derrière. Il ne faut pas du tout penser qu'une fois qu'on a remis les militaires aux casernes, ils vont y rester. En particulier, depuis qu'il a été provisoirement investi, Michel Temer a créé un ministère de la sécurité institutionnelle. Il y a mis à la tête un militaire, fils d'un des plus grands tortionnaires de la dictature et qui va s'occuper de la sécurité intérieure. Comment ? C'est assez incertain.
Alors, on peut pas vraiment, oui, Glober.
Je voulais bondir parce que c'est un autre élément très important par rapport aux militaires, c'est que les gens parlent pas trop, mais Temer vient de signer aussi un décret en permettant des militaires de faire la sécurité, les gardes de l'ordre pendant les élections municipales.
Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas séparer quand même la dictature et l'économie. On a parlé d'économie, de dogme néolibéral, et les dictatures en Amérique latine ont été justement un terrain d'expérimentation, notamment au Chili, peut-être Christophe Ventura.
Oui, justement, c'est vrai que l'Amérique latine était le laboratoire du libéralisme et des politiques, des cures cruelles de l'UFMI et de la Banque mondiale. À partir des 70 et surtout 80-90, le cycle politique progressiste est en fait issu de cela. Et il est très clair aujourd'hui que quelqu'un comme Michel Temer, il faut le comprendre comme l'homme d'un programme économique. C'est la volonté d'une restauration pleine et entière d'un néolibéralisme d'attaque à l'offensive. Au moment où on se parle, les premières mesures qui sont annoncées par Monsieur Temer sont universalistes, si j'ose dire, parce qu'elles parlent aux gens qui sont à la fête de l'humanité aujourd'hui. Monsieur Temer est l'homme d'un programme qui s'appelle Un pont vers le futur, qui avait été le programme sur lequel il a été choisi au sein de l'oligarchie pour mener l'offensive finale contre Dilma Rousseff, parce qu'il propose tout simplement de mettre l'économie brésilienne en coupe franche pour, en particulier, l'ajuster aux besoins de la compétitivité mondiale. Ça vous rappellera quelque chose. Aujourd'hui, il propose des contrats de travail à l'heure ou des contrats à la productivité, une journée de travail de 12 heures au Brésil, dans une limite de 48 heures par semaine, etc., etc.
Voilà, c'est un blitzkrieg néolibéral. Voilà pourquoi il faut s'intéresser au Brésil avant que le Brésil s'intéresse à nous.
Parce que c'est un laboratoire, de nouveau, d'une certaine forme de droite autoritaire qui revient au pouvoir partout dans le monde.
Et ce soir, justement, une soirée de soutien à la démocratie brésilienne au stand des Amis de l'UMA, et on va y retrouver, justement, elles sont en concert en ce moment, c'est As Cantadeiras du mouvement des Sans-Terres, les chanteuses du mouvement des Sans-Terres.
Não sairemos, não.
Merci à tous et à toutes. C'était Comme un bruit qui court en direct, en public et en musique depuis la fête de l'humanité. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-nous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court, hashtag comme un bruit. Juste après les infos, vous retrouvez André Manoukian pour les routes de la musique. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.